le 21e, de grandes entrevues avec Michel Lacombe.
Mon invité aujourd'hui est tout un personnage. À 11 ans, il ne savait pas lire. Et à 16 ans, on lui offrait de diriger une école primaire en Algérie, où il a étudié et travaillé jusque dans la trentaine avancée, avant de venir s'établir chez nous. Ici, il a même tâté de la politique pendant quelques années. Il a été longtemps professeur au HEC de Montréal, où il a été mis sur la touche depuis quelque temps parce qu'il clame haut et fort « Il faut abolir les écoles de management et de commerce telles qu'elles sont ici en Amérique ». Plusieurs l'auront reconnu. Omar Aktouf, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi fermer les HEC, si je comprends bien, je vais me permettre une expression, les fermer pour les réouvrir sous un autre nom?
Oui, bien entendu, c'est exactement ce que j'ai écrit dans mon texte, c'est fermer, pas fermer, j'ai mis stop à la croissance, stop aux écoles d'économie, stop aux écoles de gestion et de commerce, comme on les appelle en France, mais telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire telles qu'elles continuent à enseigner, par exemple, de faire de la croissance, de faire des profits, de faire de l'extractivisme, etc., etc. Et tout ça, on le sait très bien, c'est ce qui nous a conduit à la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, on le sait depuis longtemps d'ailleurs, et donc il faut changer tout ça et de manière radicale et hyper urgente. Et pas juste ici en Amérique du Nord. Je parle aussi des écoles de commerce en France, des écoles de gestion de commerce qui ressemblent aux business schools américaines qu'on trouve un peu partout dans le monde et aussi en Europe, sauf l'Allemagne et les pays scandinaves qui font différemment.
Voilà, voilà, ça, vous venez de le dire, en fait, c'est l'école c'est de management à l'américaine qu'on imite en France, par exemple, de plus en plus, c'est ça que vous dites.
Ah ben oui, qu'on imite aussi en Angleterre, quelque peu. Mais en Europe, c'est assez... En Europe de l'Est, je pense, il y a quelques pays qui commencent aussi, mais c'est surtout l'Afrique, l'Asie, c'est très différent parce qu'ils ont des coutumes et des traditions qui interfèrent dans l'enseignement que nous n'en avons pas.
Pourtant, ici, au HEC, c'est vous qui avez écrit le manuel d'enseignement du management dont on se sert depuis plusieurs années.
Depuis 32 ans, exactement.
Alors, comment réconcilier les deux idées?
Il a battu tous les records. Ben, il faut comprendre que j'étais professeur à Trois-Rivières quand je suis arrivé ici, donc en 83. Et entre 83 et 86, comme j'avais fait une thèse un peu spéciale en me faisant embaucher comme ouvrier, en étudiant le management, du point de vue des ouvriers. Donc j'ai produit quelque chose d'original dans ma thèse et qui était pratiquement jamais vu jusque-là, dire le management de la façon dont ceux qui le subissent le décrivent et le caractérisent. Et donc HEC Montréal s'est retrouvé en 86-87 parce qu'au départ, il ne voulait pas m'embaucher puisque ma thèse était une thèse considérée quasiment comme militante, ouvriériste, condition ouvrière, etc. Enfin,
une thèse de gauche, quoi.
Une thèse de gauche, voilà, de gauche, exactement. Et donc, c'est HEC qui est venu me chercher à Trois-Rivières en 86, juin 86, exactement, j'étais embauché. Pour expressément changer radicalement leur cours de management et le contenu.
Bon, ben alors vous l'avez changé, vous avez écrit le livre, on utilise le livre.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il
exactement.
Faut changer
maintenant? Alors, le livre que j'ai écrit, c'est un livre que j'ai intitulé « Management entre tradition et renouvellement ». Mais c'est un livre qui, la tradition, évidemment, c'est ce que nous a légué la tradition depuis que Taylor, Fayol, les Américains, etc. ont élaboré ce qu'on appelait le management, et le renouvellement, c'est un peu introduire, pas un peu, beaucoup, introduire des éléments d'écologie, des éléments de partage, d'intéressement avec les employés, comme on le fait en Allemagne, en Scandinavie, au Japon, comme le fait Cascade, par exemple, où j'ai été l'un de ceux qui ont participé au modèle Cascade, enfin qui ont contribué, et donc...
Cascade, les papiers Cascade ici chez nous.
Exact. Exactement, qui partagent les profits, qui font attention à l'environnement, qui blanchissent à l'oxygène au lieu de blanchir au chlore, quitte à faire de moindres profits, etc., etc. Or, ça, c'était enseigné à HEC, mais ça, malheureusement, ça n'était pas appliqué. Et même mes étudiants me disaient, écoutez, si nous, en sortant d'ici, on crée une entreprise et on applique ce que vous dites, eh bien, le voisin d'à côté qui a été dans une autre école de gestion, il va faire exactement comme on fait jusque-là, et nous, on sera perdants. Si on partage avec les ouvriers, si on les paye plus, si on, etc., on va faire faillite. Donc voilà, alors c'est pour ça qu'il a duré 32 ans, mais il a duré comme une espèce de bonne conscience. Ça donnait bonne conscience à HEC, aux étudiants, aux profs, etc., d'avoir un livre qui dit « Attention, il y a quand même l'environnement, il y a quand même ceci, il y a quand même cela ».
À un moment donné, HEC en a eu assez, non ?
Non, pas de ce livre. C'est, en tout cas, les étudiants l'adoraient. HEC, les professeurs d'HEC l'ont détesté dès le départ parce qu'il était trop écrit trop à l'européenne. Et puis, il y avait beaucoup trop de choses que j'avais étudiées pour me préparer à venir ici parce que j'étais paniqué de venir enseigner le management chez ceux qui l'ont inventé. Donc, je me suis farci des années, enfin des semaines, des mois au British Museum, à la Bibliothèque nationale de France pour lire tous ces auteurs donc d'économie et de management dans leurs textes fondamentaux. Ce qui fait que, par exemple, quand mon livre a été mis comme livre obligatoire à HEC, un de mes collègues qui était titulaire, professeur titulaire, qui a eu une très très mauvaise évaluation de ses étudiants, et venait me dire, Omar, comme j'étais le coordonnateur, évidemment, puis c'était mon livre, mais quand je lui demandais, mais pourquoi tu es titulaire et tu as une si mauvaise évaluation de tes étudiants ? Et il me dit, mais Omar, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'avec ton livre, les étudiants arrivent mieux préparés que le professeur.
Oui, d'accord. Mais vous n'êtes pas le seul à dire des choses comme ça. J'ai cru reconnaître certaines idées du professeur Henry Mintzberg de McGill, qui est un peu dans la même ligne que vous, qui parle maintenant de rééquilibrer la société au complet, etc.
Ben oui. Oui, absolument. Mais Mintzberg a beaucoup évolué. Quand je l'ai connu, quand j'ai commencé mon doctorat, lui, il venait de publier son best-seller « le manager au quotidien » notamment. Et donc, on s'est très vite bien entendu, parce que comme moi, il ne concevait pas qu'on puisse devenir manager sans expérience, sans avoir travaillé, sans avoir géré, sans avoir été géré, sans avoir jamais dirigé personne, sans avoir été dirigé, etc. Donc, il ne le concevait pas, et moi non plus. Et donc, c'est vrai que Mintzberg, petit à petit, est devenu très avec une conscience sociale qui, maintenant, s'affiche très clairement.
Alors, sur le fond, vous dites que l'idée même qu'on entend beaucoup maintenant, là, que la croissance des nouvelles industries plus vertes va nous sortir de la crise causée par la COVID, alors vous dites que cette idée de croissance par des nouvelles industries, ça n'a pas de sens.
Mais bien sûr, mais l'idée de croissance même n'a pas de sens. Parce que la croissance ne peut se faire qu'en faisant des dégâts encore plus à la nature et aux vivants.
Et si on parle d'industrie verte.
Aux populations, mais même les industries vertes. À partir du moment où vous admettez l'idée de croissance, vous admettez l'idée de profit. Et le profit, je peux en faire la démonstration, c'est un peu difficile à faire avec la physique et la thermodynamique, mais le profit, l'argent, ce n'est que de l'énergie. Donc si l'argent qui s'appelle le profit est créé, c'est impossible parce qu'on ne peut pas créer de l'énergie. Alors, on ne peut pas parler de créer de la richesse. Donc, si ce n'est pas créé, d'où ça vient ? C'est la transformation. C'est-à-dire que le profit que fait n'importe qui, même si c'est vert, c'est un arbre qui a été démoli. Or, cet arbre, selon le principe de conservation d'énergie par le travail de la physique et le principe de non-utilisation à 100% de l'énergie, eh bien, celui qui fait, par exemple, des profits avec des arbres, même en essayant d'être vert, l'arbre qu'il va utiliser, il va en laisser tellement de déchets, de non-utilisés, de familles de scorpions qui vivaient dedans, de lézards, de serpents, d'oiseaux, de castors, de je ne sais quoi, que ce qu'il a gagné est une infime portion de ce qu'il a détruit. Oui. Et chaque dollar supplémentaire, un économiste chilien l'a démontré dans les années 90, depuis la décennie 80-90, quand on a commencé à parler de crise mondiale, chaque dollar supplémentaire du PIB et de profit nécessite plus de dégâts que le dollar précédent. Donc plus de pollution, plus de pauvreté, plus de misère, plus de dérèglement de climat, plus de tout ce que vous voudrez. Alors c'est insensé de parler de croissance.
Le discours du professeur Omar Aktouf est le contraire de celui qu'on entend couramment, à croire que la gauche a perdu la parole. On vous a déjà répondu là-dessus, Omar Aktouf, que les inégalités tendent à se réduire dans les dernières années.
Mais c'est archi faux! C'est archi faux! Thomas Piketty a écrit 2 livres de 1000 pages chacun où il démontre, avec des statistiques sur 3 siècles, qu'au contraire, les inégalités sont encore pires qu'au Moyen-Âge. Ah non, c'est pas possible. Je viens de lire aujourd'hui que la pandémie a provoqué 100 millions d'extrêmes pauvres en plus dans le monde, alors que les plus riches se sont enrichis de 40% et que le palmarès Forbes s'est augmenté de 44 milliardaires, ce qui est un record depuis 2007. Alors non, les inégalités ne font qu'augmenter. C'est une des calamités de la crise actuelle structurelle du capital.
Est-ce que c'est en lien avec les mesures qui ont été prises autour de la COVID?
En lien avec les mesures, mais les mesures qui ont été prises avec la COVID, c'est les mêmes mesures qui ont été prises avec 2008. C'est-à-dire qu'on fait des cataplasmes. On est en train de faire marcher la planche à billets, et on fait marcher la planche à billets à 200%, et un jour, il faudra bien rembourser ça. Tout ça, c'est de l'argent artificiel. C'est comme les 15 000 milliards de dollars qu'on a donnés aux banquiers qui ont mis le monde en faillite en 2008. On les a non seulement remboursés, récompensés, mais on leur a payé tout ça en remboursement avec intérêt par la suite. C'est de la folie. La finance et les financiers, la bourse, les milieux d'affaires, etc. sont en train de détruire ce monde et ce sont ces gens-là qu'on applaudit et qu'on considère comme étant les constructeurs et les conservateurs de ce monde.
En tout cas, votre pensée est très claire, Omar Aktouf, ça.
Non seulement elle est claire, mais elle est démontrable scientifiquement.
Oui.
Prenez mon livre, La stratégie de l'autruche. La stratégie de l'autruche.
Oui.
Et vous verrez, tout ça est démontré scientifiquement de A à Z.
Je veux retourner à votre histoire, parce que votre histoire est absolument invraisemblable. D'abord, j'aimerais vous confirmer ce que j'ai dit en ouverture d'émission. À 11 ans, vous ne savez pas lire.
Pas du tout. J'étais complètement analphabète, ni lire ni écrire. Tout simplement parce que, je suis né en Algérie en 1944, mais comme mon père est revenu de la guerre, de 44 a demandé aux Français, donc il militait dans les partis d'indépendance de l'Algérie, il demandait donc on vous a sorti les Allemands de chez vous, ben maintenant on veut que vous sortiez de chez nous. Alors c'était pas un discours très très bon à tenir sous le colonialisme, et donc c'est devenu très dangereux et il a dû s'exiler au Maroc. Et là je suis arrivé au Maroc à l'âge de 2 ans, 3 ans, et tout ce qu'on a trouvé, c'est un travail comme ouvrier agricole, quelque chose comme ça, que mon père avait trouvé. Et donc, on vivait dans la misère extrême, et moyenâgeuse, et j'étais berger. Je gardais, même pas berger de nos animaux, parce qu'on n'en avait pratiquement pas, mais berger des animaux de quelques voisins qui donnaient un peu de sucre, un peu de thé, un peu de pain à mes parents. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 11 ans. Et à l'âge de 11 ans, la santé de mon père a fait qu'on a dû quitter cette terre complètement... Alors, ceux qui connaissent le Maroc, c'est les Abda, c'est semi-désertique. Terre absolument ingrate et maudite et qui fait plus de mal que de bien. Enfin, à l'époque, en tout cas, jusqu'ici, maintenant aussi, avec la sécheresse. Et donc, habiter à la ville, une petite ville, sa fille, qui était pas loin. Et là, il a trouvé un emploi de gardien de prison. Et puis, donc, moi, il fallait bien faire quelque chose de moi. J'avais un grand frère, lui, qui est parti faire la guerre d'Algérie. Mais moi, j'avais 11 ans, donc c'était pas possible. Alors, il m'a inscrit à l'école française. On avait le droit d'être inscrit au Maroc, puisqu'au Maroc, nous, Algériens, nous étions considérés comme Français et avions le droit d'aller à l'école française réservée aux Français, dans laquelle les Marocains n'avaient pas le droit d'aller. Et c'est là que j'ai rencontré des professeurs, et je le dis, communistes, ce sont des professeurs communistes qui, toute ma vie, depuis le primaire jusqu'à l'universitaire en Algérie, anticolonialistes qui m'ont pris en main, qui m'ont adopté, qui m'ont donné de l'amour, du pain, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour me sauver, ils ont réussi à me sauver. Et donc, à l'âge de 16 ans, 16 ans et demi, je me retrouvais en Algérie, puis c'était l'indépendance. Donc, l'indépendance, c'était le 5 juillet, nous sommes rentrés le 22 juillet.
1962,
oui. 1962, oui. Et là, je me suis retrouvé, mon père, comme j'étais le plus diplômé de la montagne kabyle d'où nous venions, j'avais le brevet d'études élémentaires de premier cycle. Et donc là, mon père voulait que je travaille. Donc j'ai trouvé un stage d'instituteur et j'ai été envoyé d'office dans une école de campagne. Et là, comme je suis arrivé le premier, monsieur le maire m'a nommé directeur de l'école. J'avais 16 ans et demi à peu près.
Oh là! Là, on parle de 62, c'est 62, quand même pas le 19e
exactement.
Siècle. C'est
exactement.
Quand même pas le 19e siècle, là.
Oui, c'est 1960. Mais que voulez-vous, c'était le sort du colonisé. Hein. Quand vous naissez sous le colonialisme, et le colonialisme qu'on a eu, nous, que j'ai connu, donc français, que j'ai connu aussi bien en Algérie, en Algérie très peu, je l'ai connu parce que, à partir de ce que je voyais de mon père, de mes oncles, qui s'en suit.
Et par la suite.
Mais je l'ai connu au Maroc aussi, et je vous assure que ce n'est pas un colonialisme extrêmement chaleureux.
Alors, jusqu'à 11 ans, c'était impossible d'aller à l'école.
Impossible, oui, absolument, parce qu'il y avait soi-disant une école rurale à une huitaine, dizaine de kilomètres du Douar, enfin, du Douar, c'est le village indigène, si vous voulez, fait de bidonville, quasiment, de pierres sèches et compagnie, où il n'y a rien, ni eau, ni électricité, ni absolument rien. Et donc une espèce d'école rurale où venaient des instituteurs une fois ou deux fois par semaine, une demi-journée. Écoutez, ça n'est absolument rien. Et là, mes parents ont essayé de m'envoyer là, mais moi, j'étais terrorisé par les Français. J'en entendais dire par les bergers et les autres Arabes marocains autour de moi que les Français, ils avaient des armes, des fouets, etc. Et puis, dès qu'un Arabe s'approche d'eux, eh ben, il est comme attiré dans un piège d'araignée, et puis ils le prennent, ils le mettent en prison, ils le fouettent, etc. Et ils le tuent. Donc, vous savez, moi, l'école où je voyais arriver un Français ou une Française, j'étais infiniment plus terrorisé qu'intéressé par ce qu'il essayait de dire.
Oui. Pourtant, de 11 ans à 16 ans, c'est le contraire qui se passe. Vous trouvez déjà très bien qu'ils
Absolument.
Font ça en accéléré et qu'ils vous préparent à entrer à l'enseignement supérieur.
Eh bien oui, ben là, quand mon père m'a amené de force à l'école, parce qu'évidemment, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Alors, j'ai écrit tout ça dans un livre qui s'appelle « L'exil, l'Algérie entre l'exil et la curée ». Alors, quand je parle de mes livres, je préviens les auditeurs, tout ça, je ne fais pas de marketing de mes livres, je n'en touche pas les droits d'auteur, je les donne pour des œuvres de diverses choses. Bon, ça, c'est mes affaires, mais qu'ils comprennent surtout que je ne fais pas de marketing de mes livres. Bon, donc j'ai expliqué ça dans une partie de l'Algérie entre l'exil et la curée que j'ai écrit pour ne pas devenir fou en arrivant ici au Québec. Parce que vous savez, l'exil, quitter son pays, sa famille, ses racines, etc. Après ce que j'ai connu, la misère de campagnarde moyenâgeuse du Maroc et presque la même chose en Algérie, mais même si c'était dans la ville d'Alger, je n'ai jamais rien connu d'autre.
Sauf ces instituteurs qui vous ont pris sous leur aile et qui vous ont permis, qui ont payé pour vous-même.
Absolument, oui, tout à fait. Ils ont tout, parce que évidemment, mon père n'avait pas les moyens. Ils ont m'ont pris sous leurs ailes, ils m'ont adopté, ils m'ont donné des cours, ils m'ont hébergé chez eux, des cours matin et soir, les dimanches, les samedis. Et ils ont réussi à m'ouvrir l'esprit et à faire en sorte que je devienne plus rapide et plus compétent que les autres. Tous les petits Français étaient en admiration devant mes résultats.
À 16 ans, vous ne restez pas directeur de cette école. Enfin, vous l'avez raconté, c'est presque comique, le maire qui vous dit « t'es le premier arrivé, donc tu seras le directeur ». Mais vous n'y restez pas dans cette école, vous vous sauvez pour aller étudier ailleurs. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Eh bien, exactement ce qui s'est passé, c'est que cette école, bon, d'abord, moi, je voulais continuer mes études. Ces gens m'ont tellement inculqué l'amour des études et je me plongeais tellement dans ça, parce que de toute façon, Avec la misère dans laquelle je vivais, j'avais pas d'autre chose à faire. Pas de plage, pas de cinéma, pas de rien du tout. Je relisais 50 fois les livres d'excellence que je gagnais à cause de mes résultats d'école et quelques livres que je pouvais avoir de-ci, de-là. Il n'y avait aucun livre à la maison. Donc, je voulais continuer mes études. Moi, je voulais pas travailler. Et c'est la mort dans l'âme que j'étais là parce que ma famille avait besoin de mon argent. Et chez nous, la famille, c'est sacré. C'est l'aîné ou le second, là, j'étais le second de la famille. L'aîné était encore en prison. Il a été fait prisonnier dans la guerre d'Algérie. Et donc, c'était mon devoir que d'aider mon père à subvenir aux besoins de la famille. Donc, mort dans l'âme, mais je devais le faire. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce petit village où j'ai été parachuté, il n'y avait ni lit dans l'appartement du directeur qui était complètement vide, il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait pas d'hôtel, pas de restaurant, pas de absolument rien. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais, comment je vais faire? Même physiquement, je ne peux pas survivre.
Cette histoire se passe dans une Algérie en lutte pour son indépendance. Partie de rien, Omar Aktouf veut se rendre à l'université. Vous écoutez le 21e sur ICI Radio-Canada Première ou sur le web ou l'application audio.
Donc, un peu avec un peu de bonne conscience vis-à-vis de la famille et du devoir que j'avais envers eux, eh bien, j'ai pris la décision de continuer mes études et j'ai pris un taxi-brousse à qui j'ai promis de payer en tant que directeur d'école le lendemain. Évidemment, j'avais pas un sou. Et donc, le pauvre monsieur, mais bien sûr, monsieur le directeur, mais bien sûr, je vous amène où vous voulez, tout ça. Et je me suis fait conduire à un lycée d'Alger où je savais qu'il y avait un internat. Et là, ben, j'ai menti, je passe sur les péripéties et les détails, mais je me suis quand même fait recevoir en pleine nuit, parce que c'est le jour même, j'ai enseigné la matinée, une partie de l'après-midi, autant que j'ai pu à tout le village qui rentrait dans l'école. Et j'avais les grands-parents, les parents, les oncles, les petits, tout le monde. Et donc là, j'ai réussi à me faire recevoir vers 8h, 9h du soir, donc par le directeur du lycée en question, qui était aussi un communiste catholique français, qui avait lutté pour l'indépendance d'Algérie. Et à qui j'ai menti, j'ai raconté que j'ai perdu toute ma famille, que j'étais orphelin, etc., etc., que j'avais absolument nulle part où aller, que je venais d'arriver par le train de nuit du Maroc, où j'étais hébergé par des cousins qui ont eux-mêmes disparu, qui sont repartis pour l'Algérie, mais je ne sais pas où ils sont partis, et de toute façon, ils ne voulaient plus de moi, etc. Enfin, j'ai raconté des blagues et des blagues et des blagues, et il a fait semblant de me croire, parce qu'après, j'ai compris qu'il savait que je mentais. Et donc, vu mon livret scolaire qui était excellent, ben, il m'a dit, écoutez, je vous prends. Et il a appelé le comptable du lycée pour lui demander d'aller m'acheter tout ce qu'il fallait. Donc, mon trousseau, qui consistait en 4 chemises, 4 pantalons, 4, etc., 4 paires de chaussures, 4 draps, tout ce que vous voudrez, plus les fournitures scolaires. Et c'est lui qui a payé tout ça. Et puis quand est arrivée la facture de la fin d'année, évidemment, je n'avais pas de quoi payer. Et par question de demander au paternel, qui m'avait renié, parce qu'il a dit à la maman, puisqu'il prend ses décisions tout seul, ben, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Et donc, j'ai été le voir en pleurs, en sanglots, parce que je pensais que mes études allaient finir là. Et il m'a dit, ben, écoute, Omar, ces factures, à partir de maintenant, c'est mon problème, ce n'est pas le tien. Toi, ton problème, c'est de réussir et de faire un doctorat, et tu vas me promettre que tu vas le faire.
Oh là là, mais vous êtes à
Et
quel niveau à ce moment-là?
ben, j'étais en seconde, c'est-à-dire en deuxième année avant la fin du secondaire français. Et il a payé pour moi les
Et la
trois
suite se
années.
passe, la suite, ça passe en Algérie aussi, là. Vous
Tout,
étudiez
tout, tout,
toujours
tout.
en
Tout, tout,
Algérie.
tout. Dans l'Algérie, puis
Même
grâce à ça.
l'université.
Même l'université que j'ai pu payer, bon, on nous donnait une petite bourse, l'État algérien nous donnait une petite bourse, mais ce n'était pas vraiment suffisant.